France Culture, il est midi et demi. L'heure des informations avec vous, Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Une perquisition au domicile japonais de Carlos Ghosn et plusieurs arrestations en Turquie après la fuite de l'ancien numéro 1 de Renault-Nissan. Nous ferons le point sur l'enquête au Japon où Carlos Ghosn disposait de 2 passeports français. Nous irons ensuite au Liban où il s'est enfui et où un journaliste libanais a pu le rencontrer. On l'entendra. Alors qu'aujourd'hui, la Turquie pourrait décider de lancer des frappes militaires en Libye. Les précisions à suivre depuis Istanbul avec notre correspondante Anand Lauer.
C'est une coalition inédite qui s'est formée en Autriche. Une alliance entre les conservateurs menée par l'ex-chancelier Sébastien Kurz et les Verts.
Alors que le programme de cette alliance et les contours de ce gouvernement doivent être dévoilés aujourd'hui, nous analyserons ce virage à gauche et ses perspectives avec Ludovic Piétenu depuis Berlin.
En France, la mobilisation contre la réforme des retraites vient de dépasser la durée la plus longue pour une grève continue en France.
Au 29e jour de grève, nous analyserons les points de comparaison et les perspectives avec la grève de 1986. Précision d'Annabelle Grelier dans ce journal. Et puis dans la grande table des idées, juste après ce journal, Raphaël Bourgois.
Mais écoutez, il serait question de gouvernementalité. Le mot est compliqué, il est long, c'est celui de Michel Foucault. Il est réactualisé par un philosophe, Jean-Claude Monod, dans « L'art de ne pas être trop gouverné », publié aux éditions du Seuil.
Après la fuite rocambolesque de Carlos Ghosn, des perquisitions sont menées ce matin au domicile de l'ex-patron de Renault-Nissan à Tokyo. Accusé de malversation financière alors qu'il était à la tête de Nissan, l'ancien PDG s'est enfui au Liban. Il est arrivé lundi à Beyrouth dans des circonstances encore troubles. Depuis Tokyo, il aurait été aidé par une société privée et aurait fait escale ensuite à Istanbul avant de rejoindre la capitale libanaise. De très nombreuses questions subsistent encore aujourd'hui. Les précisions à Tokyo pour France Culture. De Karine Ishimura.
Une dizaine d'inspecteurs en costume noir sont entrés devant les caméras de télévision au domicile occupé jusqu'à sa fuite par Carlos Ghosn. Ils vont tenter de déceler dans cette maison de Tokyo des indices sur la préparation de sa spectaculaire évasion. Les caméras de surveillance de la maison et du quartier devraient parler. Selon les enquêteurs, l'ex-patron pourrait avoir été dissimulé dans des bagages ou avoir bénéficié de complicité diplomatique pour échapper au contrôle aéroportuaire très strict. Par ailleurs, on a appris qu'il avait un 2e passeport français. Officiellement, les passeports français, libanais et brésilien au nom de Carlos Ghosn sont dans un coffre chez ses avocats et il n'est pas parti avec. En revanche, un 2e passeport français était sur lui, enfermé à clé dans un étui, et il servait de visa de court séjour et en cas de contrôle inopiné. Ce passeport, il n'a pas pu l'utiliser pour quitter le Japon, mais il a pu s'en servir ensuite pour entrer légalement en Turquie et au Liban.
Karine Ishimura à Tokyo pour France Culture. Carlos Ghosn ne sera pas extradé s'il vient en France, a affirmé ce matin la secrétaire d'État française à l'économie Agnès Pannier-Runacher sur la chaîne BFM TV. Depuis son retour spectaculaire à Beyrouth, les amis et les proches de Carlos Ghosn se pressent dans sa maison dans le centre de la capitale libanaise pour saluer l'ancien patron de Renault, l'enfant du pays. Le journaliste Ricardo Karam a vu Carlos Ghosn dans son domicile. Il l'a trouvé combatif. Il répond au micro de Christian Chéneau. Qui l'a joint par téléphone.
Carlos Ghosn se porte très bien, il est en parfait état, il reçoit ses amis là où il est, bien entendu, il a dîné avec ses copains, voilà, donc c'est un train de vie normal, et il est chez lui, c'est son pays, le Liban c'est son pays, il n'est pas dans un pays qu'il ne connaît pas, il n'est pas dans une vie qu'il ne connaît pas. Il est chez lui, bien entouré, par tous ceux qu'il affectionne et par tous ceux qui n'ont jamais lâché et qui ont été à ses côtés. C'est une retrouvaille avec son épouse le plus important, et puis c'est ses amis et sa famille. Vous savez, au Liban, la famille, elle est un peu étendue. Entre les cousins et les cousines, on est assez nombreux. Et voilà, donc il est très content. Il est comme on l'a connu. Il n'a pas changé d'un soupçon.
Et vous l'avez trouvé dans quel état d'esprit ?
Il n'a pas perdu son humour, son côté d'humour acerbe, et puis naturellement sa vision du lendemain avec plein de projets pour l'avenir. Il est plus combatif que jamais. C'est un homme qui n'a pas du tout affaibli par ce qu'il a subi. Est-ce qu'il a connu, même quand il était au Japon pendant cette impasse de 15 mois, il était optimiste, il croyait en le lendemain. Et voilà, aujourd'hui, je pense que son souhait est exaucé. Il est de nouveau là et finalement, il va pouvoir dire ce qu'on lui a interdit de le dire. Et voilà, et maintenant, c'est une nouvelle année, une nouvelle ère. Et ce qui prime pour l'instant, c'est la conférence de presse qui aura lieu le mercredi prochain. Et où il va s'adresser et élucider pas mal de mystères et répondre à beaucoup de questions.
Le journaliste libanais Ricardo Karam répondait à Christian Cheneau. Les autorités turques ont ouvert une enquête sur l'escale que Carlos Ghosn a effectuée à Istanbul dans sa fuite vers le Liban à bord d'un jet privé, selon la chaîne de télévision NTV. Plusieurs personnes auraient été arrêtées sans plus de précision pour l'instant. La Turquie qui s'apprête à déployer son armée en Libye. Le Parlement turc est appelé à débattre aujourd'hui d'une motion autorisant cette intervention militaire. Le président Recep Tayyip Erdogan, qui avait signé fin novembre un accord avec le premier ministre libyen Fayez al-Sarraj, compte ainsi renforcer son soutien au gouvernement de Tripoli face à l'offensive de son rival, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Dans ce dossier, le président turc estime défendre des intérêts régionaux. À Istanbul, les précisions d'Anand Lower.
Une menace pour les intérêts de la Turquie dans le bassin méditerranéen et en Afrique du Nord. C'est ainsi que la résolution soumise au vote des députés turcs décrit l'offensive contre le gouvernement d'union nationale libyen et sa capitale Tripoli. Et c'est ainsi que Recep Tayyip Erdogan justifie auprès des Turcs son intention de déployer des soldats dans ce pays, des soldats au sol, sur mer et dans les airs si nécessaire, selon les mots du chef de l'État turc. L'enjeu pour la Turquie est donc régional. Il s'agit de ne pas laisser le champ libre, militairement et par conséquent diplomatiquement, à des pays qu'elle considère comme des rivaux et qui ont choisi, eux, de soutenir les forces de Khalifa Haftar. Que viennent-ils faire en Libye, dénonçait il y a quelques jours Recep Tayyip Erdogan, en citant notamment l'Égypte et les Émirats arabes unis. Ankara, qui s'était opposée à l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011, veut aujourd'hui faire partie intégrante de la solution. Cette projection de puissance turque vise aussi à défendre des intérêts économiques et stratégiques majeurs. Ankara n'aurait jamais conclu d'accord de coopération militaire avec le gouvernement de Tripoli si ce dernier n'avait pas consenti à signer simultanément un accord maritime. Cet accord permet à la Turquie de faire valoir des droits sur de vastes zones de la Méditerranée orientale, des zones riches en hydrocarbures et disputées par la Grèce, l'Égypte, Chypre et Israël.
Anand Lower à Istanbul pour France Culture. Athènes, Chypre et Jérusalem s'apprêtent à signer aujourd'hui dans la capitale grecque un accord sur le gazoduc EastMed. C'est le nom d'un projet d'importance géopolitique dans la Méditerranée orientale où l'exploitation d'hydrocarbures alimente actuellement les tensions avec la Turquie. En Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou, inculpé pour corruption dans une série d'affaires et en lice pour les législatives de mars prochain, a déposé hier une demande d'immunité au Parlement israélien. Si elle lui était accordée, cette immunité pourrait geler pour des mois les poursuites lancées à son encontre par le parquet. Il est midi et 38 minutes sur France Culture, la suite du journal. Et c'est une coalition inédite qui s'est formée en Autriche hier. Une alliance entre les conservateurs menée par l'ex-chancelier Sébastien Kurz et les Verts. Après l'accord annoncé hier, une nouvelle coalition donc après l'échec de celle formée avec l'extrême droite il y a 2 ans et qui avait explosé après un scandale de corruption impliquant le FPE. Cette nouvelle alliance marque donc un virage à 180 degrés pour les conservateurs autrichiens. Alors que le gouvernement doit être dévoilé cet après-midi, comment ce virage sur le papier va-t-il se traduire politiquement? Pour répondre à ces questions, nous rejoignons notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétoni. Bonjour.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Alors à quoi pourrait ressembler ce futur gouvernement et les futurs axes politiques négociés?
Alors, si c'est en effet un changement radical de partenaire et qui peut surprendre, il ne faut pas non plus s'imaginer sur un plan programmatique le virage à 180 degrés dont vous parliez, Sophie, tout au plus un verdissement de la politique de Sébastien Kurz. Ce jeune ex-chancelier et donc futur chancelier conservateur de 33 ans est toujours très populaire auprès des Autrichiens. Il dispose d'une grande marge de manœuvre pour appliquer sa politique. Par exemple, la baisse de la fiscalité et la maîtrise des dépenses publiques qu'il a menées dans le précédent gouvernement ces 2 dernières années, c'était donc déjà le cas avec l'extrême droite. On le retrouve à nouveau dans ce programme commun, scellé hier soir avec les écologistes, qui ont tout au plus réussi à obtenir davantage d'éléments de fiscalité verte, à condition de ne pas augmenter au global la pression fiscale. Un autre exemple, le contrôle des frontières, une mesure à laquelle tiennent très fortement les conservateurs, et le sujet de l'immigration en général, sur lequel il y a sans doute le plus de divergences de vues entre ces deux nouveaux alliés. Les Verts n'ont pas pu s'opposer à la lutte contre l'immigration illégale, un point qui fait plutôt consensus dans l'opinion publique en Autriche. On connaîtra un peu plus tard, dans l'après-midi, tous les détails de ce programme commun qui, au travers d'autres exemples, nous ramènera sans doute, c'est même certain, au pragmatisme politique des Autrichiens, valable également en Allemagne, et assez déroutant vu de Paris. Ce nouveau tandem s'est aussi réparti les portefeuilles ministériels. Les conservateurs géreront tous les sujets régaliens, comme la sécurité intérieure, confiée précédemment à l'extrême droite. Seule la justice va aux écologistes, qui obtiennent aussi un grand ministère de l'environnement, au sein duquel on retrouve la gestion des infrastructures et plus globalement la lutte contre le changement climatique.
Merci Ludwig Piétenu pour toutes ces précisions en direct de Berlin pour France Culture. L'Autriche est donc le troisième pays de l'Union européenne, avec la Suède et la Finlande, où les écologistes ont intégré une coalition gouvernementale. Airbus redevient numéro un mondial des constructeurs aéronautiques, selon des sources proches de l'avionneur ce matin. Dépassant Boeing, Airbus a livré en 2019 863 appareils dans le monde, ce qui représente une hausse de près de 8% par rapport à l'année dernière. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors le constructeur européen a surtout profité des déboires de l'américain Boeing, aujourd'hui nettement distancé par son concurrent européen.
Oui, parce qu'avec 863 appareils livrés, on a un record que jamais un constructeur aéronautique n'avait atteint. Et en effet, Airbus a gagné du terrain grâce aux difficultés de son rival américain Boeing, qui subit de plein fouet les conséquences des deux accidents de son appareil vedette 737 Max. Ses livraisons ont chuté au deuxième et troisième trimestre, une baisse respectivement de 54 et 70%. Pas étonnant quand on sait que cet appareil représente les deux tiers de son carnet de commandes. Or, cet avion est toujours interdit de vol et sa production est même stoppée ce mois-ci. Cela dit, chez Airbus, on ne se réjouit pas des déboires de Boeing, ce n'est pas bon pour la perception qu'on a des avions en général, et puis cela peut surtout engendrer de gros problèmes chez les sous-traitants, certains étant menacés de fermeture, nous explique un porte-parole du groupe. Dans l'immédiat toutefois, ces records de livraison, c'est une bonne nouvelle pour son résultat annuel, ça veut dire des recettes qui entrent effectivement dans ses comptes, et l'avenir s'annonce plutôt rose. Selon un expert du secteur, Airbus a encore un carnet de commandes bien garni pour les 10 ans à venir.
Merci Anne-Laure Jumet. Le SMIC a 50 ans aujourd'hui. Le salaire minimum de croissance est né en France le 2 janvier 1970 avec pour objectif de garantir le pouvoir d'achat des salariés aux rémunérations les plus faibles. Et depuis 50 ans, il fait débat ce SMIC, tout comme sa revalorisation tous les ans. Préjudiciable à la compétitivité du travail pour les uns, essentiel dans la lutte contre la pauvreté pour les autres, il est pourtant de plus en plus répandu dans le monde où des pays qui n'en bénéficient pas, comme l'Allemagne, l'ont pourtant mis en place à leur choix.
Le SMIC a été créé 20 ans après le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, qui évoluait selon le seul indice des prix et qui s'est rapidement retrouvé à la traîne de l'évolution des salaires. C'est pour combler cette lacune que le salaire minimum de croissance, SMIC, donc, est donc créé, indexé, lui, sur l'inflation mesurée pour les 20% de ménages ayant les revenus les plus faibles et sur l'indice des prix à la consommation, si cet indice augmente de plus de 2%. Depuis sa création, il entraîne des questions. Est-il, oui ou non, préjudiciable à l'emploi? Faut-il le revaloriser substantiellement? Et depuis quelques années, le groupe d'experts économiques créé autour du SMIC recommande tous les ans de ne pas l'augmenter, en estimant que les travailleurs ont vu leurs revenus revalorisés via la hausse de la prime d'activité. Mais la question est complexe. L'Office français des conjonctures économiques calcule en effet qu'une augmentation d'1% du salaire minimum s'accompagne en général d'une baisse des cotisations pour les employeurs de 1 à 1,6%, c'est-à-dire des recettes en moins pour les finances publiques, ce qui, conjugué au renchérissement du coût du travail, se traduit par des pertes d'emplois. Mais la hausse des revenus induite par l'augmentation du SMIC permet d'en créer un peu moins, néanmoins, que les emplois détruits. Pour ou contre le SMIC, toujours est-il que de plus en plus de pays, pourtant réputés plus libéraux économiquement que la France, l'adoptent. Et Bruxelles planche sur son instauration dans toute l'Union européenne pour protéger les travailleurs les plus fragiles.
En France, toujours, la polémique continue autour de la promotion du nouvel an de la Légion d'honneur et de la décoration du patron du fonds BlackRock France, Jean-François Cirelli, élevé au grade d'officier, alors que BlackRock est le premier gestionnaire d'actifs financiers au monde et pourrait largement bénéficier de la retraite par points si elle est mise en place. La grève contre la réforme des retraites, elle, est entrée dans son 29e jour. Aujourd'hui, elle dépasse le record de durée d'une grève en continu en France, record établi en 1986. services. Combien de temps la grève va-t-elle se poursuivre contre cette réforme? La question reste pour l'instant en suspens, alors qu'on note une légère amélioration du trafic à la SNCF, selon la direction ce matin, qui recense un TGV sur 2, 3 Ouigo sur 5, un TER sur 2, un Intercité sur 4, 3 Transiliens sur 10. À Paris, une ligne de métro, la 7 bis, est totalement fermée. 13 lignes fonctionnent, mais avec un service très partiel. La préfecture de police de Paris annonce qu'un seul centre de dépôt de bus est bloqué dans le 18e arrondissement et que les autres sites ont été débloqués, toujours selon ce communiqué. Annabelle Grenier, bonjour.
Bonjour Sophie.
Alors, quelles sont les perspectives du mouvement si on compare avec ce qui s'est passé en 1986?
Alors, record battu, en effet, la mobilisation contre le projet de réforme des retraites est désormais le plus long conflit social depuis mai 1968. Mais au total, donc, 29 jours de mobilisation en continu. La grève est plus longue que celle de 86-87, qui avait duré, elle, 28 jours, sans trêve de Noël. Mais en 86-87, le conflit social ne portait pas sur la réforme des retraites, mais sur les conditions de travail et les salaires. Le mouvement s'était essoufflé à partir du 9 janvier et n'avait rien obtenu. En 2020, c'est une autre histoire. Depuis mercredi dernier, la SNCF n'est plus un établissement public, mais une société anonyme. Le statut du cheminot est définitivement mort. Bref, que reste-t-il à sauver sinon le régime spécial des retraites? C'est un peu la dernière bataille donc pour les cheminots, une bataille qui s'inscrit plus largement dans la défense de notre système actuel des retraites. Il faut donc s'attendre à la poursuite du mouvement, un mouvement auquel d'autres professions vont en janvier à nouveau s'agréger. Les raffineries, la fédération CGT de la chimie, appelle au blocage pendant 96 heures, du 7 au 10 janvier. Les professions concernées par les caisses autonomes, avocats, infirmiers, médecins libéraux, kinés, experts comptables, fermeront leur cabinet à compter de demain. Du côté du transport aérien, a priori plus calme, puisque les quatre principaux syndicats de pilotes, hôtesses et stewards ont obtenu des concessions de la part de l'exécutif. Ils ont donc levé leur préavis de grève, mais la rentrée ne s'annonce pas tranquille pour autant. À partir du mardi 7 janvier, le gouvernement reprend les concertations avec les syndicats, qui appellent dès le 9 à une grande journée de grève et de manifestation nationale. À compter du 13 janvier, les enseignants et les personnels hospitaliers entrent également en négociation. On parlera de retraite progressive et de critères de pénibilité. On leur a fait beaucoup de promesses, mais rien n'est acté. Et on ne peut pas dire qu'elles se dérouleront dans un climat de confiance avec le gouvernement. Donc, avec un objectif pour ce gouvernement d'obtenir un compromis rapide, comme lui a demandé le président, eh bien, on attend la présentation du projet de loi au Conseil des ministres le 22 janvier. Autant dire que d'ici là, les syndicats vont devoir mettre toute leur force dans la bataille, espérant que l'opinion publique restera de leur côté.
Merci Annabelle Grelier. Midi 47 minutes sur France Culture. Comme tous les jeudis, c'est l'heure de l'invité politique de la rédaction. Nous recevons aujourd'hui Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et pour vous interroger, Anne Fauquemberg du service politique de France Culture. Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors pour commencer, Éric Coquerel, dans le conflit social, on vient de dépasser aujourd'hui le record historique en France d'une grève en continu. On en parlait à l'instant avec Annabelle Grelier. Emmanuel Macron réaffirme qu'il veut mener à bien la réforme des retraites. On arrive au 29e jour de grève. L'impasse semble dominer. Comment comptez-vous, vous, relancer ce mouvement de protestation?
Nous, en le soutenant, parce que c'est pas nous qui faisons grève, mais en soutenant tous ceux qui sont mobilisés, tous ceux qui, j'espère, à partir de lundi, vont être mobilisés de manière encore plus forte dans le pays. Par exemple, ça passe par le fait, ce matin, vous parliez du centre de du dépôt de RATP de Clignancourt, d'être présent avec d'autres élus, d'autres responsables politiques, d'autres soutiens pour soutenir les grévistes. Ça passe par des caisses de grève, ça passe par la présence sur les manifestations, ça passe par la présence sur les médias où on essaye d'argumenter, de montrer que c'est toute la réforme de la retraite par points qui signifie un recul de l'âge de la retraite et moins de pensions. Voilà, on fait notre part du travail en espérant que le conflit se généralise et qu'on arrive comme ça à faire en sorte que Monsieur Macron, en tout cas Monsieur Édouard Philippe plutôt, parce que il lui a délégué manifestement la patate chaude, eh bien, soit obligé de retirer ce projet.
Une question d'Anne Fauquemberg.
Alors, il a délégué la patate chaude, comme vous dites, Emmanuel Macron, à Édouard Philippe, mais il s'est montré déterminé à mener sa réforme des retraites dans ses vœux. Vous aussi, vous semblez déterminé. Éric Coquerel, ça va où, ce bras de fer? Ça peut aller où?
Mais comme dans tout mouvement social, c'est-à-dire, vous savez, L'histoire de la Ve République, c'est aussi la question des mouvements sociaux. Ça fait partie de la démocratie. Et puis, il y a un moment donné où un gouvernement raisonnable, un exécutif raisonnable, s'aperçoit qu'il est en train de faire mal au pays sur un projet de loi qui n'est pas majoritaire. Et nous sommes dans ce contexte. Alors, on évoquait tout à l'heure les grandes luttes sociales. Il y a eu notamment, rappelons-nous, 95, il y a eu le CPE, où là, il y a des gouvernements, y compris après que le CPE a été promulgué, pour se rappeler, qui se sont dit, on peut pas passer en force, quoi. Il faut s'arrêter parce que, on brusque trop fortement le pays. Et bien là, nous sommes exactement dans le même contexte. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un projet de loi, il y a une chose qui est étonnante, je peux vous regarder un peu les différents sondages. Bien sûr, il faut faire attention aux sondages, mais quand ils disent tous la même chose. Au départ, les Français étaient principalement opposés à la question de l'âge pivot, qui signifiait pour eux le recul de l'âge de la retraite à 64 ans. Et maintenant, tous les sondages indiquent que c'est carrément la retraite par points qu'ils rejettent, justement pour les mêmes raisons. Donc plus le conflit avance, plus il y a un soutien aux grévistes et plus il y a un refus de ce projet de loi. Moi, je pense que Emmanuel Macron, malheureusement pour l'instant, il n'en a pas vraiment fait il n'a pas vraiment montré, mais je pense qu'Emmanuel Macron devrait avoir la sagesse de retirer le projet et puis d'ouvrir des négociations, des discussions. Voilà ce qui, au lieu de mettre le pays en tension comme il le fait depuis maintenant plusieurs semaines.
Alors vous avez parlé des caisses de grève. Vous avez mis en place, vous, une caisse de grève à l'Assemblée nationale. Ils ont été généreux, vos collègues d'opposition ?
On attend encore un peu. Elle a été mise pendant les vacances. Qu'on se comprenne bien, elle est symbolique. Hein. C'est-à-dire, il y a d'autres caisses de grève qui ont lieu actuellement. Il y en a une récemment, je crois, qui a récolté 1 million d'euros. Il faut beaucoup d'argent parce que ceux qui font grève, il faut jamais l'oublier, ils ont à la fin du mois, moins d'argent sur leur feuille de paye. C'est eux, j'allais dire, les premiers à pâtir d'une grève. Bien. Et à partir de là, c'est sûr que l'argent peut être d'une certaine manière un effort de grève que l'on fait pour ceux qui le sont. Donc on a décidé de montrer que beaucoup de députés étaient en soutien de cette grève par une caisse de solidarité. Bon, j'espère que la semaine prochaine, elle va être plus importante. On est en train de relancer un peu tout le monde. Là.
Alors, cacher. Autre débat, on en a parlé aussi avec Sophie Delpont, ça concerne Jean-François Cirelli, l'actuel dirigeant de la branche française de BlackRock, le plus grand fonds de pension du monde, qui a donc été promu au rang d'officier de la Légion d'honneur. L'Élysée balaye ce midi le débat autour de cette personnalité. L'Élysée et Matignon qui assument donc ce choix et qui dénoncent une polémique ridicule. Votre réaction ?
Ouais, j'ai même vu qu'il y avait une secrétaire d'État qui expliquait que pour BlackRock, les retraites françaises, c'était une smarties, j'ai bien compris, voulant dire que c'est pas grand-chose. Bon, je trouve que c'est vraiment quelque chose de spécial. Évidemment, enfin, c'est une provocation. Enfin, je veux dire, on a un gouvernement, on a l'impression, et Monsieur Macron, qu'il est lié organiquement au monde de la finance. Voilà, que c'est des gens avec qui il travaille de manière tellement étroite qu'il ne se rend même pas compte à certains moments qu'il y a des gestes qui sont vécus comme des provocations. Et cette Légion d'honneur en est une. Bon, il faut bien comprendre une chose. C'est que la retraite par points, c'est quelque chose qui automatiquement entraînera pour beaucoup de Français, ceux qui en ont les moyens, le recours à la retraite par capitalisation. On a parlé récemment, je prends juste une minute pour l'expliquer, mais vous savez, de cette cotisation à 2,8% pour les personnes qui gagnent des sommes au-delà de 10 000 euros. C'est-à-dire que dès que vous aurez plus de 10 000 euros, votre cotisation sera ramenée de 27 à 2,8%. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là, évidemment, par rapport aux cotisations qu'ils n'auront pas versées, n'auront pas les retraites équivalentes, ce qui est normal. Ben, qu'est-ce qui vous croyez qui arrivera? Vous avez des fonds de pension qui vont les voir, qui diront, tiens, nous, on vous propose, pour que votre retraite s'améliore, des retraites par capitalisation. Et ça sera d'autant mieux venu qu'il y a quelques mois, dans la loi Pacte, la majorité a voté la défiscalisation, justement, accrue de ces retraites par capitalisation. Donc, bien sûr que ça intéresse des fonds comme BlackRock. C'est 311 milliards les retraites en France. Donc, je trouve que c'est une provocation de plus du gouvernement et qu'il ne se rend pas compte qu'il est juste en train d'augmenter le soutien aux grèves en faisant ce genre de choses.
Alors, on vous a vu aussi très véhément aux côtés des autres formations de gauche dans un meeting commun à Saint-Denis. C'était à la mi-décembre, mais vous ne faites pas partie du groupe interparlementaire d'opposition qui s'est mis en place à l'Assemblée et au Sénat, l'initiative du Parti communiste. Pourquoi vous faites bande à part à la France insoumise ? Il n'y a pas de volonté de construire un projet alternatif justement à cette réforme Macron ?
Non, on ne fait pas bande à part. Moi, ce matin, j'étais avec Olivier Besancenot. Donc, aussitôt qu'on peut s'afficher avec d'autres soutiens politiques pour dire que nous sommes pour la grève, que nous sommes pour le retrait du projet de loi, nous le faisons. J'étais à Saint-Denis lors d'un meeting organisé par le Parti communiste, avec des syndicalistes, toute la gauche. Mais par contre, il y a quelque chose qui est un peu gênant dans cet intergroupe, c'est que il envoie deux messages qui ne sont pas des bons messages. Le premier, c'est de commencer à réfléchir aux amendements du prochain projet de loi. Pardon. Bah, c'est pas très positif. Quand vous avez des grévistes.
Vous, à la France Insoumise, vous demandez d'abord le retrait.
Voilà. Imaginez que déjà il va venir devant l'Assemblée tel que le gouvernement le souhaite, tel que le gouvernement l'a demandé dans son calendrier. C'est un peu défaitiste comme message. Et puis, un deuxième problème, c'est laisser penser qu'au-delà du refus du projet de loi, il y aurait aujourd'hui une alternative que nous pourrions mettre sur pied avec le Parti Socialiste ou Europe Écologie, alors même que ces partis, par exemple, estiment que le système par points n'est pas forcément un mauvais système. Donc, on n'en est pas là. On n'est pas à proposer un débouché commun. Mais pour vous répondre, oui, France Insoumise, nous avons proposé un contre-projet où nous proposons le retour à la retraite à 60 ans et 40 années de cotisation, pas de retraite en dessous du SMIC, et nous donnons également la manière de, financer ces projets de loi.
Merci Éric Coquerel, l'invité politique du journal de France Culture. Merci Anne Fauquemberg pour vos questions. Un point de météo, un temps gris et sec sur la moitié nord aujourd'hui. Quelques averses cet après-midi sur les Bouches-du-Rhône, mais du soleil en majorité sur la moitié sud. Les températures sont comprises entre 1 et 13 degrés avec 1 degré à Strasbourg, 3 à Dijon, 8 à Paris, Marseille et Clermont-Ferrand, 12 à Nice et jusqu'à 13 degrés maximum, ce sera pour Ajaccio. Il est midi 56 minutes sur France Culture, c'est la fin de cette édition préparée avec Nicolas Paumet et avec Jacques Hubert à la technique. Jacques Hubert.